Accent de banlieue, qu'est-ce que c'est que ça? Accent de banlieue, eh bien d'abord c'est le titre d'une étude qui est parue il y a quelques mois aux éditions de l'Harmattan et qui est signée par Susanna Fagial, qui étudie justement ce qu'on appelle les accents de banlieue. Il me semble qu'on est toujours un petit peu troublé quand il s'agit de donner un nom à cette donne linguistique, à cette façon de parler qu'on va remarquer dans les banlieues, dans les cités, qu'on va appeler parler jeune, parler des jeunes, nouvel argot. Bon, on ne sait pas trop comment se raccrocher aux branches pour désigner cet objet linguistique qu'il est un petit peu difficile d'évoquer et de décrire. Alors, Susanna Fagial, merci beaucoup d'être avec nous.
Vous merci enseignez, beaucoup de m'avoir invitée.
Vous enseignez aux États-Unis, dans l'Illinois, je crois que c'est au sud de Chicago.
C'est ça.
Et en même temps, vous qui êtes à la fois francophone et hongroise, vous étudiez un certain nombre de faits linguistiques qui sont propres à la France de ces, vous allez dire, de ces 25 dernières années. Je dis ça un peu vite, sans avoir compté. Mais ce qu'on appelle l'accent de banlieue, on verra tout à l'heure ce que c'est, on essaiera de le préciser. Mais dites-nous un petit peu de quand ça date. Est-ce que ça fait à peu près 25 ans? C'est-à-dire une génération, hein, qu'on peut entendre cet accent, cette façon de parler tout à fait spécifique.
C'est ça. Il s'agit de la génération, deuxième, troisième génération d'une vague d'immigration relativement récente. En France, et il s'agit de, disons, de façons de parler prototypiques qui sont désormais propres aux Français populaires et qui sont donc développées en contact avec les langues de l'immigration.
Donc il s'agit de façons de parler tout à fait particulières qu'on a d'abord identifiées chez des jeunes gens, chez des adolescents qui étaient, comme on dit, issus de l'immigration. C'est-à-dire qui étaient nés en France de parents qui n'y étaient pas nés et qui venaient en général d'Afrique du Nord, mais pas uniquement. Et c'est vrai que, comme la plupart du temps, d'un point de vue tout à fait social, c'était des gens qui habitaient dans des banlieues, parce que c'était, par exemple, là où il y avait le plus de travail, là où il y avait une aimantation pour l'immigration, autour des grandes villes, notamment de Paris, mais le centre de Paris était cher, les banlieues étaient moins chères, donc les banlieues devenaient une terre d'accueil pour l'immigration des années 70-80. À partir des années 80, on a une première génération d'adolescents qui sont nés en France.
Qui sont nés en France et qui sont des locuteurs natifs du français, mais qui portent dans leur façon de parler encore les influences subtiles, si vous voulez, de prononciation, des langues de leurs parents. Des langues de
et des langues diverses des
foyers.
De leurs parents.
Absolument. Ouais. Donc il s'agit d'un contexte plurilingue où un certain nombre de traits venus des langues d'immigration se mélangent et s'échangent entre les locuteurs, entre des gens qui parlent donc entre eux en interaction, par accommodation mutuelle. En apprenant le français, en parlant le français dans les quartiers plurilingues, il y a des effets de contact, si vous voulez, des effets d'apprentissage d'un certain nombre de traits phoniques qui ne sont pas nécessairement héréditaires, donc d'originaires du français.
Ce ne sont même pas du tout
héréditaires. D'ailleurs, mais qui sont quand même très, qui sont quand même intégrés, si vous voulez, qui sont assimilés, nativisés, comme on dit en linguistique, donc appropriés par ce français parlé dans les quartiers ouvriers, qui donc, comme vous l'avez bien précisé, ont toujours été une terre d'accueil pour de nombreuses vagues d'immigrés, déjà au XXe siècle, mais bien avant. Sauf que nous n'avons pas d'enregistrement sonore qui remonte donc et qui
alors
peuvent...
Alors que là, on en a, et puis on a aussi une mémoire. Pour les gens justement qui ont plus
c'est
de 25
ça.
Ans, on se souvient que depuis
c'est
25
ça.
Ans et plus, on a entendu ce type de français, qui a commencé d'ailleurs à se développer dans les collèges et dans les lycées. Pour des raisons tout à fait évidentes, parce que c'est les endroits où les adolescents se retrouvent.
Exact.
On sait en même temps qu'il y a toujours eu, en France comme ailleurs, des argots, et en particulier que l'une des terres d'élection de l'argot, c'est l'école.
Exactement.
Parce que c'est que l'argot, c'est une façon de parler qui va changer un petit peu la langue de tout le monde pour s'amuser, c'est ludique,
c'est ça.
Pour se reconnaître entre soi, c'est identitaire, et pour que l'autre ne comprenne pas. C'est cryptique, comme
exact.
On dit. Alors, on a des argots scolaires qui ont été influencés par cette donne sociolinguistique particulière.
Tout à fait. Donc, les enfants, donc deuxième, troisième génération de la dernière vague d'immigration, apportent aussi un grand nombre d'emprunts un grand nombre de mots de leur langue du foyer et qui sont donc lancés dans des conversations, si vous voulez, de manière ludique et qui sont parfois même copiés par d'autres qui ne sont pas nécessairement locuteurs natifs de ces langues de l'immigration. Et donc, ça crée un jeu, ça crée surtout dans les collèges, et j'ai vu moi-même, j'ai documenté, si ce n'est pas dans ce livre, dans d'autres articles, cette fonction tout à fait ludique des innovations lexicales. Alors, ce qui est particulier aux adolescents, d'après ce que j'ai constaté, c'est qu'un rien peut servir réellement de
Donnez-nous l'exemple d'un rien.
Voilà,
qui peut servir.
Un rien serait par exemple brut de pomme. J'ai fait ça brut de pomme.
Oui.
Or, quand on essaye de reconstruire brut de pomme,
oui,
il s'avère qu'il y a un certain nombre d'années, disons une dizaine d'années, quinzaine d'années, il existait une marque de boisson.
C'est
brut
vrai.
De pomme.
Ça ne suffit pas à attester l'expression. L'expression
non.
ne se comprend que si on croise deux origines. D'un côté, il y a brut de pomme et de l'autre, il y a une expression bien connue qui est brut de décoffrage.
Brut.
Une expression qui vient donc d'une image de la maçonnerie et comme ça ressemblait justement à brut de pomme, c'est croisé avec l'autre.
Mais dans l'usage, dans la manière dont on a cité ce mot, en tout cas dans le contexte où j'ai relevé, le sens était j'ai fait ça brut de pomme, j'ai fait ça très rapidement, vraisemblablement de manière non élaborée. Mais il y a un certain nombre d'innovations, si vous voulez, qui naissent et qui meurent le même jour.
Tu lui sers la main, toi?
Et alors?
Je lui sers la main, elle a toujours été réglo avec moi.
Ok, arrête de réglo, là, c'est un schmick, tu lui sers pas la main, voilà.
Et alors, vas-y, tire-lui une balle, toi, si tu veux.
Je vois, toi qui lui vends, je lui sers la main.
Putain, t'es relou avec ces conneries, là.
Et toi, t'es inconscient, putain, t'as
quoi, t'inquiète pas,
frère. Je savais, là, dis-moi, j'étais trop bizarre, là, putain, vas-y, faut voir.
Arrête, vas-y, reste
vas-y, fais voir, tu veux. Vas-y, fais voir.
Tu nous as même pas prévenu.
Quoi, je croyais que tu voulais pas entendre parler, toi.
Mais parce que je te croyais pas aussi teubé pour le garder sur toi.
Ça va, je suis un grand garçon, t'arrêtes de me faire la morale, toi, un peu ou quoi?
La morale, c'est quoi?
Intéresse parce que c'est plus spécifique justement de cette génération, c'est le rythme et la prosodie. Alors, Susanna Fagial, une autre question. On a bien vu que c'était un langage, disons, de jeunes.
Oui.
Est-ce que quand ces jeunes vieillissent, ils le gardent? Puisque cette langue, elle a 25 ans. Ceux qui avaient 15 ans il y a 25 ans, eh ben aujourd'hui, ils en ont 40. Est-ce qu'ils parlent de la même façon? En gros, hein?
Vraisemblablement, non. Ça va dépendre à tout moment de la mobilité sociale de l'individu, néanmoins. C'est ce qu'on pense. Alors, la question est une question empirique, comme on dit en linguistique. Il faudra retrouver ces mêmes locuteurs que j'ai interviewés 10-15 ans après, et il faudra les réinterviewer,
il faut les marquer,
regarder
les suivre, oui,
à nouveau, documenter, et ainsi de suite.
Et c'est votre travail, ça.
Voilà, donc c'est le travail de linguiste. Mais dès maintenant, dès cette enquête, j'ai des indications que surtout parmi les jeunes filles où j'ai été le plus acceptée, si vous voulez, en tant qu'enquêtrice, il y avait déjà des positionnements identitaires qui signifiaient ce type de langage, par exemple, par rapport au verlan. Je ne veux plus l'utiliser, je ne veux plus que mes enfants parlent ce genre de langage. Donc il s'agissait aussi de jeunes filles qui envisageaient de quitter un certain nombre de quartiers, où leurs amis habitaient, ou le quartier où ils habitaient, et qui se projetaient déjà dans un usage du français beaucoup plus normatif.
On voit donc que c'est un français socialement marqué, et que de temps en temps, quand on essaye justement de correspondre à une autre norme sociale, quand on veut s'insérer de façon plus générale, si vous voulez, moins marquée comme originaire de la banlieue, on veut s'en débarrasser. Mais il y a quelque chose d'intéressant, Susanna, dans ce que vous venez de dire. Vous parlez des jeunes filles qui parlaient comme ça il y a 25 ans. Est-ce que au début, quand on a commencé à entendre ce type de parlure, on peut dire, est-ce qu'elle n'était pas très masculine?
Il est difficile de savoir comment ce parler était à l'origine, car ce parler a été diffusé et présenté très très différemment au cours, disons, des 20 dernières années. On commence à le présenter comme parler jeune. Mmh. Et on se concentre surtout sur des mots. Mmh. Ensuite, on focalise plus, on accentue plus l'ethnicité, si vous voulez. Et ensuite, un certain nombre de propriétés qui est attribué aux jeunes filles, non plutôt aux jeunes hommes, et ainsi de suite. Dans mes résultats, je vois une nette différence par rapport au parler des adolescents, des garçons. Mmh. Mais je n'analyse que les enregistrements des garçons parce que je les ai trouvés les plus marquants, mmh, les plus saillants de ce type de...
C'est-à-dire que le trait est grossi de la part des garçons.
Oui, oui, parce que ces caractéristiques phoniques prototypiques qu'utilisent un certain nombre d'individus, de garçons, surtout les leaders des groupes de pères, par exemple, sont peut-être plus utilisés dans leur positionnement identitaire par rapport aux autres garçons, hein, en tant qu'adolescents. Et j'ai vu ça moins dans le groupe des filles.
Alors, une autre question plus géographique, celle-là. Est-ce qu'on a l'impression que ces façons de parler, qui sont nées donc dans les périphéries des villes, elles ont pu être imitées par des adolescents qui appartenaient à de tout autres milieux sociaux et qui appartenaient, par exemple, au centre-ville ou bien qui appartenaient aux campagnes, aux petites villes, aux villages. Est-ce que ça déborde de la banlieue, quoi ?
Ça déborde de la banlieue et non seulement ça, c'est diffusé par beaucoup de moyens dans les médias où cet accent est essentialisé, si vous voulez, d'un personnage de film.
Très souvent imité.
Voilà. Très imité, ouais. Représenté dans les médias, et donc ça veut dire que c'est largement diffusé, bien au-delà des banlieues. Mmh. D'accord.
Parce qu'il y a un effet loupe presque. Ça représente,
c'est
une espèce d'essence de la banlieue. Quand on veut parler de la banlieue, oh yeah, yo, on se met à parler comme ça, et tout le monde comprend.
Exactement.
Je le fais pas bien, mais je vais m'entraîner.
Alors, c'est excellent, c'est une suggestion excellente parce que c'est en fait un des phénomènes comme ça qui m'a amené à faire cette enquête. Mm-hmm. En tant qu'étudiante en thèse de doctorat à Paris, j'ai commencé à remarquer cette prosodie particulière que je peux vous imiter si vous voulez. Et le premier jour où arrive sur mon terrain d'enquête, j'entends « Madame, vous faites quoi ici ?» Donc « Madame ». Cette espèce de placement de l'accent et d'allongement de la première syllabe et de l'allègement de la dernière, qui serait en fait pas tout à fait la caractéristique du français de référence que l'on enseigne par exemple à l'école ou que l'on parle ici même.
Tu sauras jamais à quoi je pense, t'as pas encore décidé, je suis déjà aux conséquences. Ma tête dans la molécule harmonique, j'écris lorsque les mots s'y percutent. Infini est mon aperçu, étrange mélange de douceur, quelque chose d'herculesque. Aux du prestige au burlesque, je gère avec ce que la vie me suggère. Si tu ne pleures pas depuis hier, c'est qu'on ne vit qu'à travers les proches et leurs prières. Si je presse pour créer ce poème, aurais-je le temps d'en faire un deuxième? Véridique.
Susanna Fagial, encore une question qui me tient à cœur. Quelles sont quand même les caractéristiques justement de cette langue ? Il y en a sûrement qui sont lexicales, hein. Il y a les mots qu'on emploie, les expressions, les images. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est le rythme, c'est la prosodie. Ce type de parler, c'est d'abord rendu original par sa prosodie ?
Par un certain nombre de traits prosodiques, hein, de caractéristiques prosodiques.
Oui, alors lesquelles ?
Alors, il y a ce qu'on appelle un contour, une espèce d'intonation déclarative quand on asserte quelque chose, quand on dit quelque chose de manière affirmative. Eh bien, cette façon de dire de manière affirmative devient presque comme une exclamation. Mm-hmm. Hein, donc, madame, c'est un petit exemple, mais
ce qui veut dire qu'il y a de temps en temps des courbes intonatives qui accentuent, qui sont comme un français qui serait dit de façon plus véhémente.
C'est ça. Plus emphatique, même on disait à un moment donné. Plus véhémente, avec beaucoup plus d'investissement émotionnel, si vous voulez.
Donc, en même temps, il y a donc un accent tonique qui est suraccentué par rapport à l'usage français où l'accent tonique, c'est vrai, on a parfois dit qu'il était atone, qu'il n'y en avait pas, c'est pas vrai, bien sûr qu'il y en a un, mais il est moins affirmé que dans nombre d'autres langues.
C'est ça. Et c'est la place de cet accent est bien souvent sur la pénultième.
La pénultième, c'est l'avant-dernière.
L'avant-dernière de la phrase, et non pas la finale.
Mm-hmm.
Donc, ça existe aussi dans d'autres dialectes du français. Hein, donc. Mais dans ce parler en particulier, il peut être extrêmement saillant. Donc ça, c'est l'une des caractéristiques. L'autre caractéristique...
Et alors, c'est une caractéristique qu'on remarque d'autant plus que, bien souvent, l'accent en français est mis sur la dernière syllabe et pas sur l'avant-dernière.
C'est ça.
Donc, on a un décalage par rapport à l'habitude prosodique du français.
Et du français de référence.
C'est-à-dire du français, sans accent entre guillemets, du français d'Île-de-France, du français qui n'est pas marqué comme méridional, comme français alsacien, comme français du Nord.
Québécois, etc., non typé.
Ou si français, en effet, des pays qui ne sont pas la France.
Il y a aussi des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement structurales, si vous voulez, donc propres à la structure de la langue, mais qui ont à voir au débit. Un débit plus rapide et la suspension par exemple de l'enchaînement consonantique.
L'enchaînement c'est-à-dire consonantique. C'est-à-dire que ça fait une sorte de flux linguistique qui est régi par une série de saccades. Comme s'il y avait une suite de syllabes qui étaient juxtaposées avec un petit fossé entre chacune d'elles.
C'est
absence
ça.
De liaison parfois.
Absence de liaison, absence d'enchaînement de cette liaison.
Alors donnez-nous quelques exemples de phrases qui attestent justement de ces saccades. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Bien sûr, on en entend à travers les raps là, qui rythment cette émission. Mais donnez-nous des exemples très parlants de cela.
J'ai des enregistrements, par exemple, de jeunes tout à fait spontanés qui recherchaient à un moment donné quelques objets et qui disaient « Je sais pas, moi, c'était Ahmed. Okay »
Redites-nous ça.
« Qu'est-ce que tu as fait de ces stylos ?»« Je sais pas, c'était pas moi, c'était Ahmed. » Okay. Donc, j'arrive pas à très bien prononcer nécessairement, mais je ne sais pas, c'était Ahmed, de ces 8 syllabes, il en restait que 4 ou 5. Donc, ce débit rapide est également possible, parce qu'il y a des petites omissions de voyelles. C'était devient c'était. Ce qui est également fréquent dans le français parlé, mais pas avec d'autres phénomènes d'effacement ou de...
C'est-à-dire qu'il y a des condensations de syllabes.
C'est ça.
Ouais.
Et donc, l'ensemble de ces traits phoniques crée, tôt ou tard, hein, au bout d'un certain temps, un objet socioculturel, car c'est en fait ça, hein, c'est un accent perçu comme typique à cette population de jeunes.
Ouais. C'est le nouveau phénoménal, freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour partout. C'est parti, ça vient de s'année. Direct, issu de la génération fort qui t'a gêné. Pas de soucis, mais pas de chipi ici. Pas de chichi si tu dérapes pour te chier, monsieur. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde, son dédicté pourra. Mais c'est comme ça. Connecto, le bénéfice, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'engraissent. Oui, ça bible de nous, rêve de voir le sou. Mais ne t'approche pas, Hollande devant te fout des coups. De peu bon, si tu respectes pas les règles, mec du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mec, tout cela, je les stoppe à base de pop, pop, pop. Sinister, faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la Sinsani. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en venait au bébé. Sinister, bébé.
Susanna Fagal, est-ce que tout ça va affecter la mélodie de la voix? Est-ce que, par exemple, on monte plus haut qu'on descend plus bas? Est-ce qu'il y a un phrasé qui est différent du phrasé ordinaire du français?
Oui, probablement, mais la question de savoir si on monte plus haut ou plus bas est une question d'investissement émotionnel. C'est-à-dire, dans la mesure où on investit énormément d'énergie dans ses propos, comme j'essaie de probablement m'alimiter, on va monter nécessairement plus haut et plus bas. Est-ce qu'il va y avoir un changement durable? Dépendra de la manière dont ces phénomènes d'accent prototypique vont être diffusés et repris par d'autres.
Ouais. Est-ce qu'on a une mélodie en dents de scie, d'une certaine façon? Et est-ce que l'accentuation de ces dents de scie, telles qu'on peut les reproduire sur un graphique, par exemple, est le signe de la quantité émotionnelle qu'on essaye d'investir dans la phrase qui est dite?
Il me semble que c'est un style. Il me semble que c'est une façon de parler stylée et stylisée et emphatique. Et c'est un style que les jeunes aussi que j'ai enregistrés, il s'avère qu'ils le prennent plus souvent et qu'ils l'utilisent plus souvent avec les pères, avec leurs propres amis.
Quand vous dites les pères, c'est P-A-I-R-S, c'est-à-dire voilà. Les égaux. Hein. Faut pas se tromper là-dessus.
C'est ça. Certains l'ont utilisé avec moi, mais pas tous. Mmh. Il est bien possible de changer ce genre de style, hein, donc d'adopter plus un français de référence, si vous voulez. Je ne pense pas que ce style devienne complètement généralisé. Il est possible de le mobiliser, oui, de l'utiliser pour des marquages, hein, identitaires, pour marquer, voici, je suis membre de ce groupe de pères, je suis chef de ce groupe de pères, et ainsi de suite.
Pourquoi dites-vous je suis chef? Parce que, justement, le fait d'accentuer encore cette façon de parler, ça vous donne une stature de, oui, de leader, oui, ça distingue une personnalité,
oui,
du groupe.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué, tout à fait. Tout à fait. Et non seulement...
C'est-à-dire que pour être chef, il faut plus parler, il faut avoir un accent plus fort.
Un accent plus fort, un débit plus fort, et d'être, de donner une image d'assurance, de par la maîtrise de la langue.
Mmh. Donc, je reviens à la différenciation entre les garçons et les filles. Est-ce que ces prosodies sont les mêmes, mmh, pour des voix masculines et pour des voix féminines, pour des locuteurs et pour des locutrices?
Je n'ai pas réussi à documenter les mêmes phénomènes chez les filles. Et une raison pour laquelle je pense, c'est parce que il a pu y avoir une accommodation envers ma façon de parler, qui n'est pas des banlieues d'origine, bien évidemment. Donc, les jeunes filles faisaient peut-être plus attention à la manière dont je parlais et voulait plus s'accommoder.
Vous voulez dire que tous les corpus que vous avez utilisés, tous les exemples que vous avez utilisés pour vos études sont des exemples de discussions que des jeunes gens ont eu avec vous? Vous ne vous êtes pas servi d'autres enregistrements dans lesquels vous n'apparaissiez pas?
Je me suis servi de ces enregistrements, mais de manière plus limitée. De manière plus limitée. Et donc, je documente ma position également dans cette enquête, parce qu'elle était importante. Et il a fallu aussi avouer qui j'étais. Il a fallu être près du microphone, donc faire connaître mon identité, si vous voulez. Donc, par mon âge, par mes origines, je ne fais pas partie du groupe. Et comme dans toutes les enquêtes du type ethnographique, il y a un effet, hein, donc de l'enquêteur, oui, ou de l'enquêtrice sur son objet. Donc, ma réponse pour les différences, c'est que vraisemblablement, il s'agit du même phénomène. Mmh. On a besoin d'autres enquêtes pour
documenter. Est-ce que vous avez remarqué des différences importantes selon les régions françaises? Restons en France. Mmh. Mais par exemple, est-ce que ces accents ont la même forme selon qu'on habite dans le sud ou dans le midi de la France, ou est-ce qu'ils sont parfois affectés par un accent, par exemple, méridional?
Mes collègues documentent ce type d'accent dans d'autres grandes villes de la France, et il s'avère qu'il y a beaucoup d'uniformité. Okay. L'affrication, par exemple, prononcée...
Qu'est-ce que c'est que ça, l'affrication?
Alors, l'affrication, tout y est, plutôt que tout y est. Hein. Tout y est, monsieur, ne vous inquiétez pas. Alors, en français de référence, vous avez tout y est. Mm-hmm. En français québécois, par exemple, stéréotypé, hein, vous avez tout y est. D'accord? Une affrication. Alors, quand ça devient affriqué palatal, tout y est, vous avez un tch. Okay. Donc c'est un son qui existe dans toutes les langues, dans d'autres parlées.
Oui, mais par exemple, on sait très bien qu'en France, la nasalisation n'est pas la même à Paris, oui, à Marseille et à Toulouse. Est-ce que ça reste ça dans ce parler dit des banlieues? La nasalisation, c'est-à-dire le fait de dire ang plutôt que de dire en, le fait de dire ong plutôt que de dire on.
Alors, il y a beaucoup d'uniformité, par exemple, dans l'affrication. Mais dans d'autres phénomènes, par exemple, le retour d'une petite voyelle dans le sud de la France, hein, une chute de neige, comme on dit dans l'accent du sud.
C'est-à-dire que le muet revient.
Le muet revient.
Enfin, ce qu'on appelle le muet, c'est-à-dire celui qui est écrit et en général qui n'est pas prononcé.
Voilà. Ce muet était attesté dans les parlers jeunes des banlieues, par exemple de Marseille. Mais ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a tout de même des phénomènes d'uniformité cette affrication du type « tche » se retrouve dans beaucoup de grandes villes en France. Donc cette uniformité est surprenante. Elle constitue un objet de recherche actuel. Et donc on verra bien dans quelques années comment le phénomène va évoluer.
Écoutez, merci infiniment Susanna Fagal de nous avoir dit tout ça à partir de votre étude qui s'appelle
merci
Accent
beaucoup.
De banlieue. C'est sous-titré Aspect prosodique du français populaire en contact avec les langues de l'immigration. C'est publié aux éditions de l'Harmattan. Merci encore d'avoir été dans La Danse des mots, qui est une émission proposée par RFI et par le Centre National de Documentation Pédagogique. Lucie Bouteloup, Roger Palmieri, Yvan Amar.
Merci beaucoup.